Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE et l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Les titres. Lettre du pape à la Radio Nationale en Antarctique. En Argentine, les prêtres brasileiros font leur sacerdoce dans les bidonvilles. Crise diplomatique entre l'Argentine et l'Équateur. Haïti, toujours dans la tourmente. L'ancien président du Pérou, Pedro Castillo, renversé en décembre, toujours en prison. Le souverain pontife a envoyé une lettre de sa propre main pour saluer ceux qui réalisent la campagne Antarctique 2023 dans les bases que notre pays possède sur le continent blanc. Grâce à un contact initié par LRA 36 Radio Nationale Arcángel San Gabriel, la direction de RAE, Radiodiffusion Argentine à l'extérieur, et Lisandro Ruiz, l'un de ses collaborateurs, le pape a envoyé ses salutations dans un document écrit à la main dont la reproduction sera conservée au musée de l'Antarctique situé au siège du commandement interarmé de l'Antarctique dans la ville de Buenos Aires, alors qu'une copie encadrée sera envoyée à chacune des bases argentines sur le continent blanc. Voici le texte envoyé par le pape François. Je suis très proche de nos frères et sœurs qui se trouvent en Antarctique, en particulier aux enfants qui vont faire leur première communion. Je prie pour vous, faites-le pour moi. Que Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge veille sur vous. Fraternellement votre, François. Parlant du pape, l'Argentine s'est rappelée ces derniers jours de cette image, il y a 10 ans, du cardinal Jorge Bergoglio apparaissant au balcon de l'église Saint-Pierre à Rome. Une décennie plus tard, dans le pays natal du souverain pontife, les prêtres vigileros arpentent les bidonvilles de Buenos Aires pour venir en aide aux plus pauvres. Un reportage de RFI.
C'était il y a 10 ans, tout juste élu. Le pape François apparaissait au balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome. Soutane immaculée, aucun signe traditionnel d'apparat. Le souverain pontife donnait le ton, un retour à la simplicité qu'il a bien connue lorsqu'il était évêque à Buenos Aires. Comme lui, ils sont nombreux à exercer au cœur des bidonvilles argentins auprès des plus pauvres. Et Théo Conscience a suivi l'un de ses curas villeros, le père Pedro Bayap Casal, pendant une journée.
Un air affable, des yeux rieurs encadrés par des lunettes rondes et des sourcils broussailleux. À Villa Soldati, tout le monde connaît le Padre Pedro.
Je suis le père Pedro Baya Casal, je suis prêtre villero et nous sommes en train de visiter un bidonville de Buenos Aires.
Ce prêtre de 52 ans nous emmène à travers les rues abîmées de ce quartier défavorisé du sud de la capitale argentine où il a vécu pendant 11 ans.
Il y a une dizaine d'années, notre évêque Bergoglio marchait dans cette rue après avoir pris les transports en commun. Il était une figure connue dans ces quartiers.
Ces quartiers que le futur pape fréquentait, ce sont les Vichas, les poches de pauvreté urbaine surpeuplées d'une Argentine où plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. À Villa Soldati, les constructions précaires de 2 ou 3 étages aux briques apparentes et aux toits de tôle étaient autrefois des maisons de plein pied, se souvient Olga Amador, une habitante historique du quartier.
La population du quartier a tellement augmenté que l'on est passé de 2500 à 10 000 personnes. Et cette augmentation a fait que tous les services sont aujourd'hui défaillants. L'eau courante, l'électricité, les égouts, tous les services sont insuffisants par rapport à nos besoins.
Les habitants de ces quartiers où règne l'économie informelle sont les premiers touchés par l'inflation chronique dont souffre l'Argentine, qui dépasse actuellement les 100% annuels. Dans les bidonvilles, le rôle des curés comme Pedro Bacha Casal va bien au-delà du religieux. En plus des collectes et des distributions de vêtements ou de nourriture, ils sont aussi les premiers interlocuteurs en cas d'urgence.
Aujourd'hui, nous avons croisé Claudia avec son fils de 4 ou 5 ans. Et je lui ai dit « Ah, c'est celui que j'ai vu naître. Elle allait accoucher et elle n'avait personne pour l'emmener à l'hôpital. » Je me souviens que c'était pendant la Coupe du Monde car il y avait un match de l'Argentine. Et je lui ai dit « Ton enfant va naître maintenant, juste au moment où joue l'Argentine. » Donc on est allé à l'hôpital et elle a accouché. Mais c'est dire jusqu'où ça peut aller.
En plus de son église, la paroisse a également construit le seul collège du quartier et gère un club multisport.
En tout, nous avons aujourd'hui entre 700 et 800 jeunes et une dizaine d'activités.
Le père Adrián Benardis a remplacé Pedro Bacha Casal comme curé de Villa Soldati en 2020.
Le club fonctionne tous les jours à partir de 17h pour que les jeunes aient toujours quelque chose à faire.
Occuper les jeunes, un enjeu essentiel pour les détourner de la rue et du fléau de la drogue. Le père Adrián pousse une lourde porte coulissante pour nous montrer un bâtiment avec une grande fresque de Diego Maradona.
Ça, c'est le foyer du Christ, le centre de quartier Jean-Paul II. Là, nous accueillons beaucoup de jeunes avec des problèmes d'addiction. Un aspect du processus de traitement est que le jeune puisse le suivre au sein du quartier. Si on l'envoie dans un centre de désintoxication pour 6 mois ou 1 an et qu'il n'apprend pas à dire non et à résister, ici, il rechute dès qu'il revient.
École, activités sportives, lutte contre les addictions, cantine gratuite. Dans les bidonvilles, les curés vichyros sont au centre des réseaux de solidarité. Et habiter dans ces quartiers revêt une importance fondamentale, explique le père Adrián.
Tu vis la même chose que les gens, car tu es un voisin parmi d'autres, dans les bons comme dans les mauvais moments. S'il y a une coupure d'électricité, elle affecte tout le monde. Et c'est important, car à tout moment, on peut venir me voir et me dire « Hey, mon père !»
À l'époque où il était évêque de Buenos Aires, Jorge Bergoglio avait beaucoup soutenu les curés des bidonvilles, au point de nouer avec eux une relation privilégiée. 10 ans après son élection en tant que pape, ces derniers espèrent aujourd'hui que François se décidera enfin à revenir en visite dans son pays d'origine.
La diplomatie équatorienne a déclaré persona non grata l'ambassadeur d'Argentine à Quito après que l'ancienne ministre Maria Duarte, condamnée pour corruption, se soit échappée de l'ambassade d'Argentine à Quito où elle était réfugiée depuis 2 ans.
À Quito, rien ne va plus entre l'Équateur et l'Argentine. Ce matin, le chef de la diplomatie équatorienne, Juan Carlos Holguín, a pris la parole. Écoutez.
Nous, l'Équateur, nous venons de remettre à l'ambassadeur argentin Gabriel Fuchs une note verbale dans laquelle nous avons pris la décision de le déclarer persona non grata. Un délai raisonnable lui a été accordé pour quitter le pays. Nous sommes désolés d'en arriver là, mais les incohérences de certaines informations relatives à la situation de Mme Maria de los Angeles Duarte nous ont amenés à prendre cette décision à un moment où nous espérions que les relations entre les États seraient fondées sur la confiance mutuelle.
Cette crise diplomatique, Léa, c'est la conséquence, explique le journal équatorien El Comercio, de la fuite de Maria Duarte, dont parlait le ministre à l'instant. Maria Duarte, qui était réfugiée depuis 2 ans dans l'ambassade d'Argentine à Quito, elle avait été condamnée pour corruption. Et c'est officiel, elle est maintenant en Argentine, écrit El Mercurio. La fuite de Duarte tend les relations avec l'Argentine, titre en une Expresso. Avec le gouvernement d'Équateur qui déclare donc persona non grata l'ambassadeur d'Argentine, une décision qualifiée d'incompréhensible par les affaires étrangères argentines, qui ont donc décidé à leur tour d'expulser l'ambassadeur équatorien dans le pays, annonce El Comercio. Le journal argentin La Nación explique de son côté que Quito soupçonne Caracas d'avoir aidé d'une manière ou d'une autre Maria Duarte dans sa fuite au vu des liens entre l'ex-président équatorien Rafael Correa, dont elle fut ministre, et le gouvernement argentin, particulièrement avec la vice-présidente Cristina Kirchner, qui il y a quelques jours encore célébrait le triomphe des candidats du parti de Rafael Correa lors des élections régionales équatoriennes.
On continue avec l'Argentine, Christophe, et cette inflation record.
Plus 6,6% en février, écrit Clarín, un chiffre très mauvais, reconnaît le ministère de l'économie. Et sur un an, cela fait 102,5% du jamais vu depuis octobre 1991. Le journal publie un tableau des augmentations sur un an, 102,6% pour les aliments et les boissons non alcoolisées, 95,4% pour la santé. La Nation rappelle que l'inflation dans le pays est en moyenne de 43% depuis 1945 et qu'elle se transfère d'une génération à l'autre. Le journal consacre un article au drame d'acheter, de vendre et de survivre dans un pays qui compte 100% d'inflation.
Dans la capitale de Haïti, Port-au-Prince, les gangs rythment le quotidien entre violence, échanges de tirs, viols et kidnapping. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publie un rapport sur le trafic d'armes dans le pays et constate que ces armes de guerre proviennent pour beaucoup des États-Unis. Écoutons l'analyse de RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Il faut que quelque chose change ici, le cri du cœur des évêques haïtiens, alors que sur place, la situation a viré au chaos. La capitale Port-au-Prince est désormais contrôlée par les gangs armés, la ville a été désertée par plusieurs dizaines de milliers d'habitants, entre 130 et 150 000 personnes contraintes de fuir les violences. Pour les ONG, la marge de manœuvre est de plus en plus mince. Médecins sans frontières a par exemple dû fermer son hôpital à Cité-Soleil, dans les environs de la capitale. Emmanuel Rinck dirige les opérations pour l'ONG Solidarité Internationale. En ligne avec Michael Ponge, il décrit une situation qui rend le travail quasi impossible au moment où il est pourtant le plus nécessaire.
Chacun a tous les jours une histoire qui l'a touché directement. Certains n'ont pas pu sortir du week-end parce qu'il y avait des échanges de tirs entre gangs autour de leur quartier dans tous les sens. D'autres n'ont plus d'électricité depuis 15 jours puisque la centrale électrique elle-même a été pillée par les gangs avec le personnel menacé. D'autres ont des blessés ou voire connaissent des gens qui se sont fait kidnapper. D'autres vivent une mise en coupe réglée par les gangs qui envoient des demandes de taxation, sorte d'impôts officieux dans les quartiers à chaque propriétaire ou chaque habitant et qui leur demande de payer un certain montant au risque de se faire violenter s'ils refusent. Donc voilà, c'est un petit peu le quotidien, je crois, de tous ceux qui vivent à Port-au-Prince. Donc effectivement, c'est très difficile.
Votre ONG intervient à travers le monde. Et évidemment, il ne s'agit pas de faire un classement du pire ou des analogies qui n'auraient aucun sens. Mais cette situation haïtienne, elle se rapproche de terrains ailleurs dans le monde que vous avez pu voir, que vous connaissez. Est-ce que c'est quelque chose de totalement inédit ?
On a, nous, Solidarité, on intervient dans 23 pays, qui sont à peu près tous les pays qui sont en guerre à l'heure actuelle. On passe par l'Ukraine, l'Afghanistan, le Nigeria, etc. On a environ 90 bases dans le monde. Et donc, effectivement, Port-au-Prince, c'est sans doute dans le top 3 ou le top 5 des bases les plus insécures dans lesquelles on opère. Et la barre est quand même placée assez haut. Donc, c'est très compliqué. Et en termes de crise humanitaire, là, on arrive vraiment dans une intensification de la crise qui fait qu'on va arriver probablement on est déjà dedans en fait, dans une crise majeure humanitaire. D'ailleurs, il y a une prise de conscience qui se fait aussi dans le secteur humanitaire avec une montée des moyens de réponse. Un certain nombre d'ONG, dont la nôtre, Solidarité Internationale, essaie d'augmenter leur réponse avec plus de moyens humains, plus de moyens financiers. Donc voilà, on est vraiment parti, malheureusement, pour une crise humanitaire majeure, je pense, dont on a un petit peu de mal à voir à court terme, ce qui pourrait inverser la tendance.
Et malgré la montée en puissance, malgré la volonté, malgré les moyens, l'activité humanitaire, à quoi se heurte-t-elle ? Est-elle restreinte, empêchée dans sa volonté d'action ?
Effectivement, vous avez bien identifié le paradoxe, c'est qu'à la fois on souhaite augmenter notre capacité de réponse pour répondre aux besoins qui sont de plus en plus forts, plus en plus intenses et plus en plus étendus, mais en même temps, on est limité par cette violence quotidienne. Donc chaque mouvement doit donner lieu à une gestion très serrée de la sécurité, doit être validé, on les annule, on les autorise, ça peut changer d'heure en heure, on se maintient en courant en permanence. Tout ça entrave nos mouvements, nous-mêmes, nos équipes, évidemment, on réduit les plages horaires de travail puisque le risque kidnapping est très fort et se concentre davantage sur certaines heures que sur d'autres. Donc tout ça crée un environnement extrêmement compliqué pour les humanitaires, avec effectivement des collègues nationaux aussi qui parfois, et on les comprend, ont peur de leur quotidien, que ce soit au travail, mais évidemment aussi chez eux.
Est-ce que vous avez du mal, à ce titre-là, à recruter du personnel ?
Bah écoutez, c'est pas facile. On y arrive. Évidemment, il faut recruter du personnel senior, puisque l'environnement sécuritaire est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'était auparavant. On se heurte aussi à une sorte de fuite des cerveaux de notre personnel haïtien pour mettre à l'abri leur famille ou se mettre à l'abri eux-mêmes, étant aussi, eux, potentiellement des cibles pour les kidnappeurs. Donc tout ça crée effectivement un climat et une ambiance et un environnement dans lequel il est très difficile de travailler, y compris en termes de recrutement.
Si la situation venait à se dégrader encore davantage, est-ce que cela pourrait remettre en question votre présence en Haïti ?
Alors la réponse théorique est oui. En pratique, nous on est une ONG humanitaire, donc on fait vraiment notre maximum pour gérer ce type de situation. On travaille dans des zones, que ce soit l'Afghanistan, sur l'île de front Ukraine, ou sur par exemple le Nigeria, dans l'état de Borno où l'état islamique opère. Donc on est habitué à gérer des situations de violence et d'insécurité extrêmement fortes et complexes, mais on est vraiment dans une situation très très difficile, donc effectivement ça peut amener des interruptions, en tout cas temporaires.
Et de ce que vous avez constaté sur le terrain, puisque je le rappelle, vous revenez de Port-au-Prince, est-ce que parmi vos équipes, parmi les autres membres d'ONG humanitaires, la note est à l'optimisme malgré tout, ou bien est-ce qu'il y a un certain pessimisme et découragement qui s'abat sur vous ?
Le pessimisme est fort, c'est ce qui m'a frappé en visitant une semaine, en rencontrant tout un ensemble d'interlocuteurs clés que j'avais déjà rencontrés pour certains il y a 4 ans. C'est qu'il y a un très fort pessimisme de tous nos collègues haïtiens, de tous nos collègues aussi internationaux. On ne voit pas comment à court terme, d'où la lumière va venir. Donc il y a grand pessimisme malheureusement.
De nouvelles attaques à l'arme lourde à Pétionville hier et dans plusieurs quartiers de la capitale haïtienne. Cette flambée de violence des gangs depuis plus de 10 jours maintenant touche donc toute la capitale et a poussé Médecins Sans Frontières à fermer temporairement l'un de ses centres de santé à Cité Soleil, un quartier pauvre de la ville. Décision prise à contre-cœur, explique Alexandre Marcoux de MSF en Haïti.
Les conséquences malheureusement sont néfastes, voire dramatiques, dans une commune qui compte plus de 300 000 habitants, où il y a très peu de structures de soins. C'est une population qui vit dans des conditions d'hygiène très compliquées, qui manque d'accès à l'eau potable. C'est dans ces quartiers qu'on a vu aussi la résurgence du choléra en octobre dernier. C'est des quartiers où les violences aussi causent des blessures par balles, des blessures à armes blanches. Les besoins sont énormes et la population, si elle n'a pas accès à des soins gratuits de qualité comme offrait Médecins Sans Frontières à l'hôpital de Cité Soleil, on sait qu'une partie de la population va se retrouver sans cet accès à la santé.
L'un des responsables de MSF en Haïti. Mais alors d'où proviennent les armes de guerre utilisées par les gangs? Le trafic illégal d'armes à feu de gros calibre vers Haïti est en forte hausse. Et l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a publié récemment un rapport là-dessus. Angela May a coordonné ce rapport et Stéphanie Schuller l'a jointe par téléphone.
Aux États-Unis, des individus peuvent acheter des armes à feu, en particulier dans les États où les législations sur ces armes sont les moins restrictives. Ils peuvent donc y acheter des armes à feu et les transporter en Haïti. En général, les cargaisons passent directement de la Floride vers Haïti, mais aussi de la Floride vers la République dominicaine et de là en Haïti. Il s'agit d'une activité très lucrative, car on peut acheter un fusil pour $500 aux États-Unis et le revendre $10 000 en Haïti.
Mais qui en Haïti peut payer $10 000 pour un fusil ?
Eh bien, ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles. Ils tirent des profits illégaux de divers trafics illicites qu'ils pratiquent. Pas seulement la drogue, il y a aussi la taxation, par exemple, des marchandises légales qui entrent en Haïti. Vous savez, Haïti dépend presque entièrement des importations. Il y a donc beaucoup de marchandises qui entrent en Haïti. Ceux qui contrôlent les ports ont la capacité de tirer profit de tout ce commerce.
Les personnes capables de payer $10 000 pour un fusil, diriez-vous qu'il s'agit de membres de gangs ou de personnes plus haut placées dans la société, comme des politiciens ou des personnalités du monde des affaires?
Les deux. Il peut s'agir aussi bien d'individus qui font partie de l'élite politique ou économique, impliqués dans des activités illicites, que des membres de gangs. En Haïti, il y a aujourd'hui des profils très différents qui peuvent se permettre d'acheter des armes à feu pour un tel prix. Il existe d'ailleurs des liens entre groupes criminels aux États-Unis et en Haïti. Il semble clair que des membres de la diaspora haïtienne aux États-Unis sont très impliqués, mais aussi des ressortissants d'autres nationalités d'Amérique latine.
Le rapport constate également une hausse dans le trafic de drogue. D'où vient la drogue et pourquoi transite-t-elle par Haïti?
Les drogues qui entrent en Haïti sont avant tout le cannabis, qui arrive de Jamaïque, et la cocaïne, qui arrive des pays andins et qui est transportée jusqu'à l'Amérique du Nord. Toute la région des îles de la Caraïbe et de l'Amérique centrale constitue le principal couloir de transit par lequel d'immenses quantités de cocaïne sont acheminées des pays andins vers l'Amérique du Nord. Et Haïti se trouve donc en quelque sorte en plein milieu de ce grand flux.
Quels sont les facteurs qui expliquent cette augmentation du trafic d'armes et de drogue en Haïti?
Les organisations criminelles qui contrôlent aujourd'hui Haïti sont à l'origine de cette situation. Elles ont permis au trafic illicite de prospérer. S'ajoute à cela la très faible capacité de l'État. Sur le papier, la police nationale d'Haïti compte 14 000 membres, mais probablement seuls 9 000 d'entre eux sont réellement opérationnels. ville. La police des frontières ne compte que 300 agents et Haïti a seulement 200 gardes-côtes.
About 200 officers are part of the Haitian Coast Guard.
Si on sait que ce trafic illicite passe avant tout par les ports, on comprend que ces ressources sont presque ridicules pour lutter contre le commerce illégal.
Puisque nous parlons de la fragilité des contrôles frontalières en Haïti, vous nous avez dit que la plupart des armes à feu provenaient des États-Unis. Qu'en est-il alors du contrôle des frontières américaines ?
Eh bien, les États-Unis ont renforcé leur contrôle. Ils ont arrêté toute exportation officielle d'armes à feu vers Haïti. Mais il est clair que le trafic illicite existe toujours. Nous voyons toujours beaucoup d'armes à feu entrer en Haïti.
La coordinatrice du rapport sur le trafic d'armes en Haïti, publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, au téléphone de Stéphanie Schuller.
L'ancien président du Pérou, Pedro Castillo, renversé en décembre, toujours en prison. Le gouvernement illégal de Boluarte a prolongé sa détention à 36 mois, selon RFI.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente.
Il a eu beau clamer son innocence, dire qu'il est détenu injustement depuis bientôt 100 jours au Pérou, l'ex-président Pedro Castillo reste en prison. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Sa détention préventive a été portée à 36 mois.
Elle était jusqu'ici de 18 mois. Mais le pouvoir judiciaire estime que la demande du procureur est fondée, écrit Diario Correo. 36 mois de prison préventive pour l'ex-président, accusé d'être le leader d'une organisation criminelle, de trafic d'influence et de collusion pendant sa présidence. Selon le juge Juan Checle Solia, cité par Peru 21, la peine totale de prison que risque Pedro Castillo pourrait atteindre les 32 ans. El Comercio rappelle que l'ex-président est déjà incarcéré dans la prison de Barbadillo depuis le mois de décembre pour rébellion présumée et conspiration en vue de perpétrer un coup d'État. Son avocat a annoncé que Pedro Castillo, qu'il a présenté comme victime de poursuites politiques, ferait appel.
Indio Solari est un chanteur du populaire groupe argentin Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, connu entre autres pour la chanson qui nous accompagne, Un poco d'amor francés, un peu d'amour français.
No comen las hormigas.
existe une version en français de Un poco de amor francés, interprétée par une Argentine, Yvonne, diplômée du lycée français de Buenos Aires et avocate, qui a reçu des éloges, ni plus ni moins que de Indio Solari. Termine ce programme en français de Rai l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.